Lettre 31 de Saint Preux à Julie.
Quel prodige du ciel es-tu donc, inconcevable Julie ? Et par quel art, connu de toi seule, peux-tu rassembler dans un cœur tant de mouvements incompatibles ? Ivre d'amour et de volupté, le mien nage dans la tristesse. Je souffre et languis de douleur au sein de la félicité suprême, et je me reproche comme un crime l'excès de mon bonheur. Dieu ! Quel tourment affreux de n'oser se livrer tout entier à nul sentiment, de les combattre incessamment l'un par l'autre, et d'allier toujours l'amertume au plaisir. Il vaudrait mieux 100 fois n'être que misérable. Que me sert, hélas, d'être heureux ? Ce ne sont plus mes maux, mais les tiens que j'éprouve, et ils ne m'en sont que plus sensibles. Tu veux en vain me cacher tes peines, je les lis, malgré toi, dans la langueur et l'abattement de tes yeux. Ces yeux touchants peuvent-ils dérober quelques secrets à l'amour ? Je vois, sous une apparente sérénité, les déplaisirs cachés qui t'assiègent, et ta tristesse, voilée d'un doux sourire, n'en est que plus amère à mon cœur. Il n'est plus temps de me rien dissimuler. J'étais hier dans la chambre de ta mère. Elle me quitte un moment. J'entends des gémissements qui me percent l'âme. Pouvais-je à cet effet méconnaître leur source ? Je m'approche du lieu d'où il semble partir, j'entre dans ta chambre, je pénètre jusqu'à ton cabinet. Que devins-je en entr'ouvrant la porte, quand j'aperçus celle qui devrait être sur le trône de l'univers, assise à terre, la tête appuyée sur un fauteuil inondé de ses larmes. Ah, j'aurais moins souffert s'il l'eût été de mon sang. De quel remords je fus à l'instant déchiré. Mon bonheur devint mon supplice. Je ne sentis plus que tes peines. Et j'aurais racheté de ma vie tes pleurs et tous mes plaisirs. Je voulais me précipiter à tes pieds, je voulais essuyer de mes lèvres ces précieuses larmes, les recueillir au fond de mon cœur, mourir ou les tarir pour jamais. J'entends revenir ta mère. Il faut retourner brusquement à ma place. J'emporte en moi toutes tes douleurs et des regrets qui ne finiront qu'avec elle. Que je suis humilié, que je suis avili de ton repentir. Je suis donc bien méprisable si notre union te fait mépriser de toi-même, et si le charme de mes jours est le supplice des tiens. Sois plus juste envers toi, ma Julie. Vois d'un œil moins prévenu les sacrés liens que ton cœur a formés. N'as-tu pas suivi les plus pures lois de la nature ? N'as-tu pas librement contracté le plus saint des engagements ? Qu'as-tu fait que les lois divines et humaines ne puissent et ne doivent t'autoriser ? Que manque-t-il au nœud qui nous joint ? Qu'une déclaration publique. Veuille être à moi. Tu n'es plus coupable. Ô mon épouse, ô ma digne et chaste compagne, ô charme et bonheur de ma vie, non, ce n'est point ce qu'a fait ton amour qui peut être un crime, mais ce que tu lui voudrais ôter. Ce n'est qu'en acceptant un autre époux que tu peux offenser l'honneur. Sois sans cesse à l'ami de ton cœur pour être innocente. La chaîne qui nous lie est légitime. L'infidélité seule qui la romprait serait blâmable, et c'est désormais à l'amour d'être garant de la vertu. Mais quand ta douleur serait raisonnable, quand tes regrets seraient fondés, pourquoi m'en dérobes-tu ce qui m'appartient ? Pourquoi mes yeux ne versent-ils pas la moitié de tes pleurs ? Tu n'as pas une peine que je ne doive sentir, pas un sentiment que je ne doive partager, et mon cœur, justement jaloux, te reproche toutes les larmes que tu ne répands pas dans mon sein. Dis, froide et mystérieuse amante, tout ce que ton âme ne communique point à la mienne, n'est-il pas un vol que tu fais à l'amour ? Tout ne doit-il pas être commun entre nous ? Ne te souvient-il plus de l'avoir dit ? Ah, si tu savais aimer comme moi, mon bonheur te consolerait comme ta peine m'afflige, et tu sentirais mes plaisirs comme je sens ta tristesse. Mais je le vois, tu me méprises comme un insensé, parce que ma raison s'égare au sein des délices. Mes emportements t'effraient, mon délire te fait pitié. Et tu ne sens pas que toute la force humaine ne peut suffire à des félicités sans bornes. Comment veux-tu qu'une âme sensible goûte modérément des biens infinis ? Comment veux-tu qu'elle supporte à la fois tant d'espèces de transports sans sortir de son assiette ? Ne sais-tu pas qu'il est un terme où nulle raison ne résiste plus, et qu'il n'est point d'homme au monde dont le bon sens soit à toute épreuve ? Prends donc pitié de l'égarement où tu m'as jeté, et ne méprise pas des erreurs qui sont ton ouvrage. Je ne suis plus à moi, je l'avoue. Mon âme aliénée est tout en toi. J'en suis plus propre à sentir tes peines et plus digne de les partager. Oh, Julie, ne te dérobe pas à toi-même.
Lettre 32. Réponse de Julie à Saint-Preux.
Il fut un temps, mon aimable amie, où nos lettres étaient faciles et charmantes. Le sentiment qui les dictait coulait avec une élégante simplicité. Il n'avait besoin ni d'art ni de coloris, et sa pureté faisait toute sa parure. Cet heureux temps n'est plus, hélas. Il ne peut revenir, et pour premier effet d'un changement si cruel, nos cœurs ont déjà cessé de s'entendre. Tes yeux ont vu mes douleurs. Tu crois en avoir pénétré la source. Tu veux me consoler par de vains discours. Et quand tu penses m'abuser, c'est toi, mon ami, qui t'abuse. Crois-moi, crois en le cœur tendre de ta Julie. Mon regret est bien moins d'avoir donné trop à l'amour que de l'avoir privé de son plus grand charme. Ce doux enchantement de vertu s'est évanoui comme un songe. Nos feux ont perdu cette ardeur divine qui les animait en les épurant. Nous avons recherché le plaisir et le bonheur a fui loin de nous. Ressouviens-toi de ces moments délicieux où nos cœurs s'unissaient d'autant mieux que nous nous respections davantage, où la passion tirait de son propre excès la force de se vaincre elle-même, où l'innocence nous consolait de la contrainte, où les hommages rendus à l'honneur tournaient tous au profit de l'amour. Compare un état si charmant à notre situation présente. Que d'agitation, que d'effroi, que de mortelles alarmes, que de sentiments immodérés ont perdu leur première douceur. Qu'est devenu ce zèle de sagesse et d'honnêteté dont l'amour animait toutes les actions de notre vie et qui rendait à son tour l'amour plus délicieux? Notre jouissance était paisible et durable. Nous n'avons plus que des transports. Ce bonheur insensé ressemble à des accès de fureur plus qu'à de tendres caresses. Un feu pur et sacré brûlait nos cœurs. Livrés aux erreurs des sens, nous ne sommes plus que des amants vulgaires, trop heureux si l'amour jaloux daigne présider encore à des plaisirs que le plus vil mortel peut goûter sans lui. Voilà, mon ami, les pertes qui nous sont communes, et que je ne pleure pas moins pour toi que pour moi. Je n'ajoute rien sur les miennes, ton cœur est fait pour les sentir. Vois ma honte et gémis si tu sais aimer. Ma faute est irréparable, mes pleurs ne tariront point. Ô toi qui les fais couler, crains d'attenter à de si justes douleurs, tout mon espoir est de les rendre éternels. Le pire de mes maux serait d'en être consolé, et c'est le dernier degré de l'opprobre de perdre avec l'innocence le sentiment qui nous l'a fait aimer. Je connais mon sort, j'en sens l'horreur, et cependant il me reste une consolation dans mon désespoir. Elle est unique, mais elle est douce, c'est de toi que je l'attends, mon aimable ami. Depuis que je n'ose plus porter mes regards sur moi-même, je les porte avec plus de plaisir sur celui que j'aime. Je te rends tout ce que tu m'ôtes de ma propre estime, et tu ne m'en deviens que plus cher en me forçant à me haïr. L'amour, cet amour fatal qui me perd, te donne un nouveau prix. Tu t'élèves quand je me dégrade, ton âme semble avoir profité de tout l'avilissement de la mienne. Sois donc désormais mon unique espoir. C'est à toi de justifier, s'il se peut, ma faute. Couvre-la de l'honnêteté de tes sentiments, que ton mérite efface ma honte, rends excusable, à force de vertu, la perte de celle que tu me coûtes. Sois tout mon être, à présent que je ne suis plus rien. Le seul honneur qui me reste est tout en toi, et tant que tu seras digne de respect, je ne serai pas tout à fait méprisable. Quelques regrets que j'ai au retour de ma santé, je ne saurais le dissimuler plus longtemps. Mon visage démentirait mes discours, et ma feinte convalescence ne peut plus tromper personne. Hâte-toi donc, avant que je sois forcé de reprendre mes occupations ordinaires, de faire la démarche dont nous sommes convenus. Je vois clairement que ma mère a conçu des soupçons et qu'elle nous observe. Mon père n'en est pas là, je l'avoue. Ce fier gentilhomme n'imagine pas même qu'un roturier puisse être amoureux de sa fille. Mais enfin, tu sais ses résolutions. Il te préviendra si tu ne le préviens. Et pour avoir voulu te conserver le même accès dans notre maison, tu t'en banniras tout à fait. Crois-moi, parle à ma mère, tandis qu'il en est encore temps. Fin des affaires qui t'empêchent de continuer à m'instruire, et renonçons à nous voir si souvent, pour nous voir au moins quelquefois, car si l'on te ferme la porte, tu ne peux plus t'y présenter. Mais si tu te la fermes toi-même, tes visites seront en quelque sorte à ta discrétion, et avec un peu d'adresse et de complaisance, tu pourras les rendre plus fréquentes dans la suite, sans qu'on l'aperçoive ou qu'on le trouve mauvais. Je te dirai ce soir les moyens que j'imagine d'avoir d'autres occasions de nous voir, et tu conviendras que l'inséparable cousine, qui causait autrefois tant de murmures, ne sera pas maintenant inutile à deux amants qu'elle n'eût point dû quitter.
Lettre 33 de Julie à Saint-Preux.
À mon ami, le mauvais refuge pour deux amants qu'une assemblée. Quel tourment de se voir et de se contraindre. Il vaudrait mieux 100 fois ne se point voir. Comment avoir l'air tranquille avec tant d'émotions? Comment être si différent de soi-même? Comment songer à tant d'objets quand on n'est occupé que d'un seul? Comment contenir le geste et les yeux quand le cœur vole? Je ne sentis de ma vie un trouble égal à celui que j'éprouvais hier quand on t'annonça chez Madame Dervard. Je pris ton nom prononcé pour un reproche qu'on m'adressait. Je m'imaginais que tout le monde m'observait de concert. Je ne savais plus ce que je faisais. Et à ton arrivée, je rougis si prodigieusement que ma cousine, qui veillait sur moi, fut contrainte d'avancer son visage et son éventail, comme pour me parler à l'oreille. Je tremblais que cela même ne fît un mauvais effet, et qu'on cherchât du mystère à cette chuchoterie. En un mot, je trouvais partout de nouveaux sujets d'alarme, et je ne sentis jamais mieux combien une conscience coupable arme contre nous de témoins qui n'y songent pas. Claire prétendit remarquer que tu ne faisais pas une meilleure figure. Tu lui paraissais embarrassé de ta contenance, inquiet de ce que tu devais faire, n'osant aller, ni venir, ni m'aborder, ni t'éloigner, et promenant tes regards à la ronde, pour avoir, disait-elle, occasion de les tourner sur nous. Un peu remise de mon agitation, je crus m'apercevoir moi-même de la tienne, jusqu'à ce que la jeune Madame Belon, t'ayant adressé la parole, tu t'assis en causant avec elle et devins plus calme à ses côtés. Je sens, mon ami, que cette manière de vivre, qui donne tant de contraintes et si peu de plaisir, n'est pas bonne pour nous. Nous aimons trop pour pouvoir nous gêner ainsi. Ces rendez-vous publics ne conviennent qu'à des gens qui, sans connaître l'amour, ne laissent pas d'être bien ensemble ou qui peuvent se passer du mystère. Les inquiétudes sont trop vives de ma part, les indiscrétions trop dangereuses de la tienne, et je ne puis pas tenir une Madame Belon toujours à mes côtés pour faire diversion au besoin. Reprenons, reprenons cette vie solitaire et paisible dont je t'ai tiré si mal à propos. C'est elle qui a fait naître et nourrit nos feux. Peut-être s'affaiblirait-il par une manière de vivre plus dissipée. Toutes les grandes passions se forment dans la solitude. On n'en a point de semblable dans le monde, où nul objet n'a le temps de faire une profonde impression, et où la multitude des goûts énerve la force des sentiments. Cet état aussi plus convenable à ma mélancolie. Elle s'entretient du même aliment que mon amour. C'est ta chère image qui soutient l'une et l'autre, et j'aime mieux te voir tendre et sensible au fond de mon cœur que contraint et distrait dans une assemblée. Il peut d'ailleurs venir un temps où je serai forcée à une plus grande retraite. Fût-il déjà venu ce temps désiré? La prudence et mon inclination veulent également que je prenne d'avance des habitudes conformes à ce que peut exiger la nécessité. Ah! Si de mes fautes pouvait naître le moyen de les réparer, le doux espoir d'être un jour... Mais insensiblement, j'en dirai plus que je n'en veux dire sur le projet qui m'occupe. Pardonne-moi ce mystère, mon unique ami. Mon cœur n'aura jamais de secret qui ne te fût doux à savoir. Tu dois pourtant ignorer celui-ci. Et tout ce que je t'en puis dire à présent, c'est que l'amour qui fit nos maux doit nous en donner le remède. Raisonne, commente si tu veux, dans ta tête. Mais je te défends de m'interroger là-dessus.
Lettre 34. Réponse de Saint-Preux à Julie.
No, non vedrete mai. Cambiar gli affiatti miei. Bei lumi onde imparai. À s'ospérar d'amour. Que je dois l'aimer, cette jolie Madame Belon, pour le plaisir qu'elle m'a procuré. Pardonne-le-moi, divine Julie, j'osais jouir un moment de tes tendres alarmes, et ce moment fut un des plus doux de ma vie. Qu'ils étaient charmants, ces regards inquiets et curieux qui se portaient sur nous à la dérobée, et se baissaient aussitôt pour éviter les miens. Que faisait alors ton heureux amant? S'entretenait-il avec Madame Belon? Ah, ma Julie, peux-tu le croire? Non, non, fille incomparable, il était plus dignement occupé. Avec quel charme son cœur suivait les mouvements du tien? Avec quelle avide impatience ses yeux dévoraient tes attraits? Ton amour, ta beauté remplissaient, ravissaient son âme. Elle pouvait suffire à peine à tant de sentiments délicieux. Mon seul regret était de goûter, aux dépens de celle que j'aime, des plaisirs qu'elle ne partageait pas. Sais-je ce que, durant tout ce temps, me dit Madame Belon? Sais-je ce que je lui répondis ? Le savais-je au moment de notre entretien ? A-t-elle pu le savoir elle-même ? Et pouvait-elle comprendre la moindre chose au discours d'un homme qui parlait sans penser et répondait sans entendre ? Comme homme che parla ascolti, e nulla intende. Aussi m'a-t-elle pris dans le plus parfait dédain. Elle a dit à tout le monde, à toi peut-être, que je n'ai pas le sens commun, qui pisait, pas le moindre esprit, et que je suis tout aussi sot que mes livres. Que m'importe ce qu'elle en dit et ce qu'elle en pense ? Ma Julie ne décide-t-elle pas seule de mon être et du rang que je veux avoir ? Que le reste de la terre pense de moi comme il voudra, tout mon prix est dans ton estime. Ah ! Crois qu'il n'appartient ni à Madame Belon, ni à toutes les beautés supérieures à la sienne, de faire la diversion dont tu parles, et d'éloigner un moment de toi mon cœur et mes yeux. Si tu pouvais douter de ma sincérité, si tu pouvais faire cette mortelle injure à mon amour et à tes charmes, dis-moi, qui pourrait avoir tenu registre de tout ce qui se fit autour de toi ? Ne te vis-je pas briller entre ces jeunes beautés comme le soleil entre les astres qui l'éclipsent ? N'aperçus-je pas les cavaliers se rassembler autour de ta chaise ? Ne vis-je pas, au dépit de tes compagnes, l'admiration qu'ils marquaient pour toi ? Ne vis-je pas leurs respects empressés, et leurs hommages, et leurs galanteries ? Ne te vis-je pas recevoir tout cela avec cet air de modestie et d'indifférence qui en impose plus que la fierté ? Ne vis-je pas, quand tu te décantais pour la collation, l'effet que ce bras découvert produisit sur les spectateurs ? Ne vis-je pas le jeune étranger qui releva ton gant vouloir baiser la main charmante qui le recevait ? N'en vis-je pas un plus téméraire, dont l'œil ardent suçait mon sang et ma vie, t'obliger, quand tu t'en fus aperçu, d'ajouter une épingle à ton fichu ? Je n'étais pas si distrait que tu penses. Je vis tout cela, Julie, et n'en fus point jaloux, car je connais ton cœur. Il n'est pas, je le sais bien, de ceux qui peuvent aimer deux fois. Accuseras-tu le mien d'en être ? Reprenons-la donc, cette vie solitaire que je ne quittais qu'à regret. Non, le cœur ne se nourrit point dans le tumulte du monde. Les faux plaisirs lui rendent la privation des vrais plus amère, et il préfère sa souffrance à de vains dédommagements. Mais, ma Julie, il en est, il en peut être de plus solide à la contrainte où nous vivons, et tu sembles les oublier. Quoi ? Passer 15 jours entiers si près l'un de l'autre, sans se voir ou sans se rien dire ? Ah, que veux-tu qu'un cœur brûlé d'amour fasse durant tant de siècles ? L'absence même serait moins cruelle. Que sert un excès de prudence qui nous fait plus de maux qu'il n'en prévient ? Que sert de prolonger sa vie avec son supplice ? Ne vaudrait-il pas mieux, 100 fois, se voir un seul instant et puis mourir ? Je ne le cache point, ma douce amie. J'aimerais à pénétrer l'aimable secret que tu me dérobes. Il n'en fut jamais de plus intéressant pour nous, mais j'y fais d'inutiles efforts. Je saurais pourtant garder le silence que tu m'imposes et contenir une indiscrète curiosité, mais en respectant un si doux mystère que n'en puis-je au moins assurer l'éclaircissement ? Qui sait encore si tes projets ne portent point sur des chimères ? Chère âme de ma vie, ah ! Commençons du moins par les biens réalisés. Postscriptum. J'oubliais de te dire que M. Roguin m'a offert une compagnie dans le régiment qu'il lève pour le roi de Sardaigne. J'ai été sensiblement touché de l'estime de ce brave officier. Je lui ai dit, en le remerciant, que j'avais la vue trop courte pour le service et que ma passion pour l'étude s'accordait mal avec une vie aussi active. En cela, je n'ai point fait un sacrifice à l'amour. Je pense que chacun doit sa vie et son sang à sa patrie, qu'il n'est pas permis de s'aliéner à des princes auxquels on ne doit rien, moins encore de se vendre et de faire du plus noble métier du monde celui d'un vil mercenaire. Ces maximes étaient celles de mon père, que je serais bien heureux d'imiter dans son amour pour ses devoirs et pour son pays. Il ne voulut jamais entrer au service d'aucun prince étranger, mais dans la guerre de 1712, il porta les armes avec honneur pour la patrie. Il se trouva dans plusieurs combats, à l'un desquels il fut blessé, et à la bataille de Villemergen, où il eut le bonheur d'enlever un drapeau ennemi sous les yeux du général de Saconnex.
« Lettre 35 de Julie à Saint-Preux.
Je ne trouve pas, mon ami, que les deux mots que j'avais dits en riant sur Madame Belon valussent une explication si sérieuse. Tant de soins à se justifier produisent quelquefois un préjugé contraire, et c'est l'attention qu'on donne aux bagatelles qui seule en fait des objets importants. Voilà ce qui sûrement n'arrivera pas entre nous, car les cœurs bien occupés ne sont guère pointilleux, et les tracasseries des amants sur des riens ont presque toujours un fondement beaucoup plus réel qu'il ne semble. Je ne suis pas fâchée pourtant que cette bagatelle nous fournisse une occasion de traiter entre nous de la jalousie, sujet malheureusement trop important pour moi. Je vois, mon ami, par la trempe de nos âmes et par le tour commun de nos goûts, que l'amour sera la grande affaire de notre vie. Quand une fois il a fait les impressions profondes que nous avons reçues, il faut qu'il éteigne ou absorbe toutes les autres passions. Le moindre refroidissement serait bientôt pour nous la langueur de la mort. Un dégoût invincible, un éternel ennui, succéderait à l'amour éteint, et nous ne saurions longtemps vivre après avoir cessé d'aimer. En mon particulier, tu sens bien qu'il n'y a que le délire de la passion qui puisse me voiler l'horreur de ma situation présente, et qu'il faut que j'aime avec transport ou que je meure de douleur. Vois donc si je suis fondée à discuter sérieusement un point d'où doit dépendre le bonheur ou le malheur de mes jours. Autant que je puis juger de moi-même, il me semble que, souvent affectée avec trop de vivacité, je suis pourtant peu sujette à l'emportement. Il faudrait que mes peines eussent fermenté longtemps en dedans pour que j'osasse en découvrir la source, à leur hauteur, et comme je suis persuadée qu'on ne peut faire une offense sans le vouloir, je supporterai plutôt sans sujet de plainte qu'une explication. Un pareil caractère doit mener loin, pour peu qu'on ait de penchant à la jalousie, et j'ai bien peur de sentir en moi ce dangereux penchant. Ce n'est pas que je ne sache que ton cœur est fait pour le mien et non pour un autre, mais on peut s'abuser soi-même, prendre un goût passager pour une passion, et faire autant de choses par fantaisie qu'on en eût peut-être fait par amour. Or, si tu peux te croire inconstant sans l'être, à plus forte raison puis-je t'accuser à tort d'infidélité. Ce doute affreux empoisonnerait pourtant ma vie. Je gémirais sans me plaindre et mourrais inconsolable sans avoir cessé d'être aimée. Prévenons, je t'en conjure, un malheur dont la seule idée me fait frissonner. Jure-moi donc, mon doux ami, non par l'amour, serment qu'on ne tient que quand il est superflu, mais par ce nom sacré de l'honneur, si respecté de toi, que je ne cesserai jamais d'être la confidente de ton cœur, et qu'il n'y surviendra point de changement dont je ne sois la première instruite. Ne m'allègue pas que tu n'auras jamais rien à m'apprendre, je le crois, je l'espère, mais préviens mes folles alarmes, et donne-moi dans tes engagements pour un avenir qui ne doit point être l'éternelle sécurité du présent. Je serais moins à plaindre d'apprendre de toi mes malheurs réels que d'en souffrir sans cesse d'imaginaire. Je jouirais au moins de tes remords. Si tu ne partageais plus mes feux, tu partagerais encore mes peines, et je trouverais moins amères les larmes que je verserais dans ton sein. C'est ici, mon ami, que je me félicite doublement de mon choix, et par le doux lien qui nous unit, et par la probité qui l'assure. Voilà l'usage de cette règle de sagesse dans les choses de pur sentiment. Voilà comment la vertu sévère s'est écartée les peines du tendre amour. Si j'avais un amant sans principe, dût-il m'aimer éternellement, où seraient pour moi les garants de cette constance? Quels moyens aurais-je de me délivrer de mes défiances continuelles, et comment m'assurer de n'être point abusé, ou par sa feinte, ou par ma crédulité? Mais toi, mon digne et respectable ami, toi qui n'es capable ni d'artifice, ni de déguisement, tu me garderas, je le sais, la sincérité que tu m'auras promise. La honte d'avouer une infidélité ne l'emportera point dans ton âme droite sur le devoir de tenir ta parole. Et si tu pouvais ne plus aimer ta Julie, tu lui dirais, oui, tu pourrais lui dire, « Oh Julie, je ne... » Mon ami, jamais je n'écrirai ce mot-là. Que penses-tu de mon expédient? C'est le seul, j'en suis sûre, qui pouvait déraciner en moi tout sentiment de jalousie. Il y a je ne sais quelle délicatesse qui m'enchante à me fier de ton amour à ta bonne foi, et à m'ôter le pouvoir de croire une infidélité que tu ne m'apprendrais pas toi-même. Voilà, mon cher, l'effet assuré de l'engagement que je t'impose. Car je pourrais te croire amant volage, mais non pas ami trompeur. Et quand je douterais de ton cœur, je ne puis jamais douter de ta foi. Quel plaisir je goûte à prendre en ceci des précautions inutiles, à prévenir les apparences d'un changement dont je sens si bien l'impossibilité. Quel charme de parler de jalousie avec un amant si fidèle. Ah, si tu pouvais cesser de l'être, ne crois pas que je t'en parlasse ainsi. Mon pauvre cœur ne serait pas si sage au besoin, et la moindre défiance m'ôterait bientôt la volonté de m'en garantir. Voilà, mon très honoré maître, matière à discussion pour ce soir, car je sais que vos deux humbles disciples auront l'honneur de souper avec vous chez le père de l'inséparable. Vos doctes commentaires sur la Gazette vous ont tellement fait trouver grâce devant lui qu'il n'a pas fallu beaucoup de manège pour vous faire inviter. La fille a fait accorder son clavecin, le père a feuilleté Lamberti, moi je recorderai peut-être la leçon du bosquet de Clarence. Oh, docteur en toute faculté, vous avez partout quelque science de mise. Monsieur d'Orbe, qui n'est pas oublié, comme vous pouvez penser, a le mot pour entamer une savante dissertation sur le futur hommage du roi de Naples, durant laquelle nous passerons tous trois dans la chambre de la cousine. C'est là, mon féal, qu'à genoux devant votre dame et maîtresse, vos deux mains dans les siennes, et en présence de son chancelier, vous lui jurerez foi et loyauté à toute épreuve, non pas à dire amour éternel, engagement qu'on est maître ni de tenir ni de rompre, mais vérité, sincérité, franchise inviolable. Vous ne jurerez point d'être toujours soumis, mais de ne point commettre acte de félonie, et de déclarer au moins la guerre avant de secouer le joug. Ce faisant, aurez l'accolade, et serez reconnu vassal unique et loyal chevalier. Adieu, mon bon ami. L'idée du souper de ce soir m'inspire de la gaieté. Ah, qu'elle me sera douce quand je te la verrai partagée.
Lettre 36 de Julie à Saint-Preux.
Baise cette lettre et saute de joie pour la nouvelle que je vais t'apprendre, mais pense que, pour ne point sauter et n'avoir rien à baiser, je n'y suis pas la moins sensible. Mon père, obligé d'aller à Berne pour son procès, et de là à Soleur pour sa pension, a proposé à ma mère d'être du voyage, et elle l'a accepté, espérant pour sa santé quelque effet salutaire du changement d'air. On voulait me faire la grâce de m'emmener aussi, et je ne jugeais pas à propos de dire ce que j'en pensais. Mais la difficulté des arrangements de voiture a fait abandonner ce projet, et l'on travaille à me consoler de n'être pas de la partie. Il fallait feindre de la tristesse, et le faux rôle que je me vois contrainte à jouer m'en donne une si véritable que le remords m'a presque dispensé de la feinte. Pendant l'absence de mes parents, je ne resterai pas maîtresse de maison. Mais on me dépose chez le père de la cousine, en sorte que je serai tout de bon durant ce temps, inséparable de l'inséparable. De plus, ma mère a mieux aimé se passer de femme de chambre et me laisser Babie pour gouvernante, sorte d'argus peu dangereux, dont on ne doit ni corrompre la fidélité, ni se faire des confidents, mais qu'on écarte aisément au besoin, sur la moindre lueur de plaisir ou de gain qu'on leur offre. Tu comprends quelle facilité nous aurons à nous voir durant une quinzaine de jours. Mais c'est ici que la discrétion doit suppléer à la contrainte, et qu'il faut nous imposer volontairement la même réserve à laquelle nous sommes forcés dans d'autres temps. Non seulement tu ne dois pas, quand je serai chez ma cousine, y venir plus souvent qu'auparavant, de peur de la compromettre, j'espère même qu'il ne faudra te parler ni des égards qu'exige son sexe, ni des droits sacrés de l'hospitalité, et qu'un honnête homme n'aura pas besoin qu'on l'instruise du respect dû par l'amour à l'amitié qui lui donne asile. Je connais tes vivacités. Mais j'en connais les bornes inviolables. Si tu n'avais jamais fait de sacrifice à ce qui est honnête, tu n'en aurais point à faire aujourd'hui. D'où vient cet air mécontent et cet œil attristé? Pourquoi murmurer des lois que le devoir t'impose? Laisse à ta Julie le soin de les adoucir. T'es-tu jamais repenti d'avoir été docile à sa voix? Près des coteaux fleuris d'où part la source de la Veuvaise, il est un hameau solitaire qui sert quelquefois de repère aux chasseurs et ne devrait servir que d'asile aux amants. Autour de l'habitation principale dont M. d'Orbe dispose, sont épars assez loin quelques chalets qui de leur toit de chaume peuvent couvrir l'amour et le plaisir, amis de la simplicité rustique. Les fraîches et discrètes laitières savent garder pour autrui le secret dont elles ont besoin pour elles-mêmes. Les ruisseaux qui traversent les prairies sont bordés d'arbrisseaux et de bocages délicieux. Des bois épais offrent au-delà des asiles plus déserts et plus sombres. Al bel seggio riposto, ombroso e fosco, né mai pastori appressan, né bifolci. L'art ni la main des hommes n'y montrent nulle part leurs soins inquiétants, on n'y voit partout que les tendres soins de la mère commune. C'est là, mon ami, qu'on n'est que sous ses auspices, et qu'on ne peut écouter que ses lois. Sur l'invitation de M. d'Orbe, Claire a déjà persuadé à son papa qu'il avait envie d'aller faire avec quelques amis une chasse de 2 ou 3 jours dans ce canton et d'y mener les inséparables. Ces inséparables en ont d'autres, comme tu ne sais que trop bien. L'un, représentant le maître de la maison, en fera naturellement les honneurs. L'autre, avec moins d'éclat, pourra faire à sa Julie ceux d'un humble chalet. Et ce chalet, consacré par l'amour, sera pour eux le temple de Gnide. Pour exécuter heureusement et sûrement ce charmant projet, il n'est question que de quelques arrangements qui se concerteront facilement entre nous et qui feront partie eux-mêmes des plaisirs qu'ils doivent produire. Adieu, mon ami, je te quitte brusquement, de peur de surprise. Aussi bien, je sens que le cœur de ta Julie vole un peu trop tôt habiter le chalet. P.S. Tout bien considéré, je pense que nous pourrons sans indiscrétion nous voir presque tous les jours, savoir chez ma cousine de 2 jours l'un et l'autre à la promenade.
Lettre 37 de Julie à Saint-Preux.
Ils sont partis ce matin, ce tendre père et cette mère incomparable, en accablant des plus tendres caresses une fille chérie et trop indigne de leur bonté. Pour moi, je les embrassais avec un léger serrement de cœur, tandis qu'au-dedans de lui-même, ce cœur ingrat et dénaturé pétillait d'une odieuse joie. Hélas, qu'est devenu ce temps heureux où je menais incessamment sous leurs yeux une vie innocente et sage, où je n'étais bien que contre leur sein et ne pouvais les quitter d'un seul pas sans déplaisir. Maintenant, coupable et craintive, je tremble en pensant à eux, je rougis en pensant à moi. Tous mes bons sentiments se dépravent et je me consume en vain et stérile regret que n'anime pas même un vrai repentir. Ces amères réflexions m'ont rendu toute la tristesse que leurs adieux ne m'avaient pas d'abord donnée. Une secrète angoisse étouffait mon âme après le départ de ses chers parents. Tandis que Babi faisait les paquets, je suis entrée machinalement dans la chambre de ma mère. Et voyant quelques-unes de ces hardes encore éparses, je les ai toutes baisées l'une après l'autre en fondant en larmes. Cet état d'attendrissement m'a un peu soulagée, et j'ai trouvé quelque sorte de consolation à sentir que les doux mouvements de la nature ne sont pas tout à fait éteints dans mon cœur. Ah, tyran, tu veux en vain la servir tout entier, ce tendre et trop faible cœur. Malgré toi, malgré tes prestiges, il lui reste au moins des sentiments légitimes. Il respecte et chérit encore des droits plus sacrés que les tiens. Pardonne, ô mon doux ami, ces mouvements involontaires, et ne crains pas que j'étende ces réflexions aussi loin que je le devrais. Le moment de nos jours, peut-être, où notre amour est le plus en liberté, n'est pas, je le sais bien, celui des regrets. Je ne veux ni te cacher mes peines, ni t'en accabler. Il faut que tu les connaisses, non pour les porter, mais pour les adoucir. Dans le sein de qui les épancherais-je, si je n'osais les verser dans le tien? N'es-tu pas mon tendre consolateur? N'est-ce pas toi qui soutiens mon courage ébranlé? N'est-ce pas toi qui nourris dans mon âme le goût de la vertu, même après que je l'ai perdue? Sans toi, sans cette adorable amie dont la main compatissante essuya si souvent mes pleurs, combien de fois n'eussé-je pas déjà succombé sous le plus mortel abattement? Mais vos tendres soins me soutiennent, je n'ose m'avilir tant que vous m'estimez encore, et je me dis avec complaisance que vous ne m'aimeriez pas tant l'un et l'autre si je n'étais digne que de mépris. Je vole dans les bras de cette chère cousine, ou plutôt de cette tendre sœur, déposée au fond de son cœur une importune tristesse. Toi, viens ce soir achever de rendre au mien la joie et la sérénité qu'il a perdue.
Lettre 38 de Saint-Preux à Julie.
Non, Julie, il ne m'est pas possible de ne te voir chaque jour que comme je t'ai vu la veille. Il faut que mon amour s'augmente et croisse incessamment avec tes charmes, et tu m'es une source inépuisable de sentiments nouveaux que je n'aurais pas même imaginés. Quelle soirée inconcevable! Que de délices inconnues tu fis éprouver à mon cœur! Ô tristesse enchanteresse! Ô langueur d'une âme attendrie, combien vous surpassez les turbulents plaisirs et la gaieté folâtre et la joie emportée et tous les transports qu'une ardeur sans mesure offre au désir effréné des amants. Paisible et pure jouissance qui n'a rien d'égal dans la volupté des sens. Jamais, jamais ton pénétrant souvenir ne s'effacera de mon cœur. Dieu, quel ravissant spectacle, ou plutôt, quelle extase, de voir deux beautés si touchantes s'embrasser tendrement, le visage de l'une se pencher sur le sein de l'autre, leurs douces larmes se confondre, et baigner ce sein charmant, comme la rosée du ciel humecte un lys fraîchement éclos. J'étais jaloux d'une amitié si tendre, je lui trouvais je ne sais quoi de plus intéressant que l'amour même, et je me voulais une sorte de mal de ne pouvoir t'offrir des consolations aussi chères, sans les troubler par l'agitation de mes transports. Non, rien, rien sur la terre n'est capable d'exciter un si voluptueux attendrissement que vos mutuelles caresses, et le spectacle de deux amants eût offert à mes yeux une sensation moins délicieuse. Ah, qu'en ce moment j'eusse été amoureux de cette aimable cousine si Julie n'eût pas existé. Mais non, c'était Julie elle-même qui répandait son charme invincible sur tout ce qui l'environnait. Ta robe, ton ajustement, tes gants, ton éventail, ton ouvrage, tout ce qui frappait autour de toi mes regards enchantait mon cœur, et toi seul faisais tout l'enchantement. Arrête, ô ma douce amie, à force d'augmenter mon ivresse, tu m'ôterais le plaisir de la sentir. Ce que tu me fais éprouver approche d'un vrai délire, et je crains d'en perdre enfin la raison. Laisse-moi du moins connaître un égarement qui fait mon bonheur. Laisse-moi goûter ce nouvel enthousiasme, plus sublime, plus vif que toutes les idées que j'avais de l'amour. Quoi ? Tu peux te croire avili ? Quoi ? La passion t'ôte-t-elle aussi le sens ? Moi je te trouve trop parfaite pour une mortelle. Je t'imaginerais d'une espèce plus pure, si ce feu dévorant qui pénètre ma substance ne m'unissait à la tienne, et ne me faisait sentir qu'elles sont la même. Non, personne au monde ne te connaît, tu ne te connais pas toi-même. Mon cœur seul te connaît, te sent, et sait te mettre à ta place, ma Julie. Ah, quels hommages te seraient ravis si tu n'étais qu'adorée. Ah, si tu n'étais qu'un ange, combien tu perdrais de ton prix. Dis-moi comment il se peut qu'une passion telle que la mienne puisse augmenter. Je l'ignore, mais je l'éprouve. Quoique tu me sois présente dans tous les temps, il y a quelques jours surtout que ton image, plus belle que jamais, me poursuit et me tourmente avec une activité à laquelle ni lieu ni temps ne me dérobe. Et je crois que tu me laissas avec elle dans ce chalet que tu quittas en finissant ta dernière lettre. Depuis qu'il est question de ce rendez-vous champêtre, je suis trois fois sorti de la ville. Chaque fois, mes pieds m'ont porté des mêmes côtés et chaque fois, la perspective d'un séjour si désiré m'a paru plus agréable. Non vide il mondo si le giadri rami. Nemose, el vento mai si verdi frondi. Je trouve la campagne plus riante, la verdure plus fraîche et plus vive, l'air plus pur, le ciel plus serein, le chant des oiseaux semble avoir plus de tendresse et de volupté. Le murmure des eaux inspire une langueur plus amoureuse. La vigne en fleurs exhale au loin de plus doux parfums. Un charme secret embellit tous les objets ou fascine mes sens. On dirait que la terre se pare pour former à ton heureux amant un lit nuptial digne de la beauté qu'il adore et du feu qui le consume. Ô Julie, ô chère et précieuse moitié de mon âme, hâtons-nous d'ajouter à ces ornements du printemps la présence de deux amants fidèles. Portons le sentiment du plaisir dans des lieux qui n'en offrent qu'une vaine image. Allons animer toute la nature. Elle est morte sans les feux de l'amour. Quoi, trois jours d'attente, trois jours encore. Ivre d'amour, affamé de transport, j'attends ce moment tardif avec une douloureuse impatience. Ah, qu'on serait heureux si le ciel ôtait de la vie tous les ennuyeux intervalles qui séparent de pareils instants.
Lettre 39 de Julie à Saint-Preux.
Tu n'as pas un sentiment, mon bon ami, que mon cœur ne partage. Mais ne me parle plus de plaisir, tandis que des gens qui valent mieux que nous souffrent, gémissent, et que j'ai leur peine à me reprocher. Lis la lettre ci-jointe, et sois tranquille si tu le peux. Pour moi, qui connais l'aimable et bonne fille qui l'a écrite, je n'ai pu la lire sans des larmes de remords et de pitié. Le regret de ma coupable négligence m'a pénétré l'âme, et je vois avec une amère confusion jusqu'où l'oubli du premier de mes devoirs m'a fait porter celui de tous les autres. J'avais promis de prendre soin de cette pauvre enfant. Je la protégeais auprès de ma mère. Je la tenais en quelque manière sous ma garde. Et pour n'avoir su me garder moi-même, je l'abandonne sans me souvenir d'elle et l'expose à des dangers pires que ceux où j'ai succombé. Je frémis en songeant que 2 jours plus tard, c'en était fait peut-être de mon dépôt, et que l'indigence et la séduction perdaient une fille modeste et sage qui peut faire un jour une excellente mère de famille. Oh, mon ami, comment y a-t-il dans le monde des hommes assez vils pour acheter de la misère un prix que le cœur seul doit payer et recevoir d'une bouche affamée les tendres baisers de l'amour? Dis-moi, pourras-tu n'être pas touché de la piété filiale de ma Fanchon, de ses sentiments honnêtes, de son innocente naïveté? Ne l'es-tu pas de la rare tendresse de cet amant qui se vend lui-même pour soulager sa maîtresse? Ne seras-tu pas trop heureux de contribuer à former un nœud si bien assorti? Ah, si nous étions sans pitié pour les cœurs unis qu'on divise, de qui pourrait-il jamais en attendre? Pour moi, j'ai résolu de réparer envers ceux-ci ma faute, à quelque prix que ce soit, et de faire en sorte que ces 2 jeunes gens soient unis par le mariage. J'espère que le ciel bénira cette entreprise, et qu'elle sera pour nous d'un bon augure. Je te propose et te conjure, au nom de notre amitié, de partir dès aujourd'hui, si tu le peux, ou tout au moins demain matin, pour Neuchâtel. Va négocier avec Monsieur de Merveilleux le congé de cet honnête garçon. N'épargne ni les supplications ni l'argent. Porte avec toi la lettre de ma Fanchon. Il n'y a point de cœur sensible qu'elle ne doive attendrir. Enfin, quoi qu'il nous en coûte, et de plaisir et d'argent, ne reviens qu'avec le congé absolu de Claude Anet, ou crois que l'amour ne me donnera de mes jours un moment de pure joie. Je sens combien d'objections ton cœur doit avoir à me faire. Doutes-tu que le mien ne les ait faites avant toi? Et je persiste, car il faut que ce mot de vertu ne soit qu'un vain nom, ou qu'elle exige des sacrifices. Mon ami, mon digne ami, un rendez-vous manqué peut revenir 1000 fois. Quelques heures agréables s'éclipsent comme un éclair et ne sont plus. Mais si le bonheur d'un couple honnête est dans tes mains, songe à l'avenir que tu vas te préparer. Crois-moi, l'occasion de faire des heureux est plus rare qu'on ne pense. La punition de l'avoir manquée est de ne plus la retrouver. Et l'usage que nous ferons de celle-ci nous va laisser un sentiment éternel de contentement ou de repentir. Pardonne à mon zèle ces discours superflus. J'en dis trop à un honnête homme, et 100 fois trop à mon ami. Je sais combien tu hais cette volupté cruelle qui nous endurcit aux maux d'autrui. Tu l'as dit 1000 fois toi-même, malheur à qui ne sait pas sacrifier un jour de plaisir au devoir de l'humanité.
Lettre 40 de Fanchon Regard à Julie.
Mademoiselle, pardonnez une pauvre fille au désespoir qui, ne sachant plus que devenir, ose encore avoir recours à vos bontés. Car vous ne vous lassez point de consoler les affligés, et je suis si malheureuse qu'il n'y a que vous et le bon Dieu que mes plaintes n'importunent pas. J'ai eu bien du chagrin de quitter l'apprentissage où vous m'aviez mise. Mais ayant eu le malheur de perdre ma mère cet hiver, il a fallu revenir auprès de mon pauvre père, que sa paralysie retient toujours dans son lit. Je n'ai pas oublié le conseil que vous aviez donné à ma mère de tâcher de m'établir avec un honnête homme qui prit soin de la famille. Claude Anet, que monsieur votre père avait ramené du service, est un brave garçon, rangé, qui sait un bon métier et qui me veut du bien. Après tant de charité que vous avez eue pour nous, je n'osais plus vous être incommode, et c'est lui qui nous a fait vivre pendant tout l'hiver. Il devait m'épouser ce printemps. Il avait mis son cœur à ce mariage. Mais on m'a tellement tourmentée pour payer 3 ans de loyer échu à Pâques, que, ne sachant où prendre tant d'argent comptant, le pauvre jeune homme s'est engagé de rechef, sans m'en rien dire, dans la compagnie de Monsieur de Merveilleux, et m'a apporté l'argent de son engagement. Monsieur de Merveilleux n'est plus à Neuchâtel que pour 7 ou 8 jours, et Claude Anet doit partir dans 3 ou 4 pour suivre la recrue. Ainsi, nous n'avons pas le temps ni le moyen de nous marier, et il me laisse sans aucune ressource. Si par votre crédit, ou celui de Monsieur le Baron, vous pouviez nous obtenir au moins un délai de 5 ou 6 semaines, on tâcherait pendant ce temps-là de prendre quelque arrangement pour nous marier ou pour rembourser ce pauvre garçon. Mais je le connais bien, il ne voudra jamais reprendre l'argent qu'il m'a donné. Il est venu ce matin un monsieur bien riche m'en offrir beaucoup d'avantages. Mais Dieu m'a fait la grâce de le refuser. Il a dit qu'il reviendrait demain matin savoir ma dernière résolution. Je lui ai dit de n'en pas prendre la peine et qu'il la savait déjà. Que Dieu le conduise. Il sera reçu demain comme aujourd'hui. Je pourrais bien aussi recourir à la bourse des pauvres, mais on est si méprisé qu'il vaut mieux pâtir. Et puis Claude Anet a trop de cœur pour vouloir d'une fille assister. Excusez la liberté que je prends, ma bonne demoiselle, je n'ai trouvé que vous seule à qui j'ose avouer ma peine, et j'ai le cœur si serré qu'il faut finir cette lettre. Votre bien humble et affectionnée servante à vous servir. Fanchon Regard.
Lettre 41. Réponse de Julie à Fanchon Regard.
J'ai manqué de mémoire et toi de confiance, ma chère enfant. Nous avons eu grand tort toutes deux, mais le mien est impardonnable. Je tâcherai du moins de le réparer. Babi, qui te porte cette lettre, est chargée de pourvoir au plus pressé. Elle retournera demain matin pour t'aider à congédier ce monsieur s'il revient. Et l'après-dîner, nous irons te voir, ma cousine et moi. Car je sais que tu ne peux pas quitter ton pauvre père, et je veux connaître par moi-même l'état de ton petit ménage. Quant à Claude Anet, n'en sois point en peine. Mon père est absent, mais, en attendant son retour, on fera ce qu'on pourra, et tu peux compter que je n'oublierai ni toi ni ce brave garçon. Adieu, mon enfant, que le bon Dieu te console. Tu as bien fait de n'avoir pas recours à la bourse publique. C'est ce qu'il ne faut jamais faire tant qu'il reste quelque chose dans celle des bonnes gens.
Lettre 42 de Saint-Preux à Julie.
Je reçois votre lettre et je pars à l'instant. Ce sera toute ma réponse. Ah, cruel, que mon cœur en est loin de cette odieuse vertu que vous me supposez et que je déteste. Mais vous ordonnez, il faut obéir. Dussé-je en mourir 100 fois, il faut être estimé de Julie.
Lettre 43 de Saint-Preux à Julie.
J'arrivais hier matin à Neuchâtel. J'appris que Monsieur de Merveilleux était à la campagne. Je courus l'y chercher. Il était à la chasse, et je l'attendis jusqu'au soir. Quand je lui eus expliqué le sujet de mon voyage, et que je l'eus prié de mettre un prix au congé de Claude Anet, il me fit beaucoup de difficultés. Je crus l'élever en offrant de moi-même une somme assez considérable, et l'augmentant à mesure qu'il résistait. Mais, n'ayant rien pu obtenir, je fus obligé de me retirer, après m'être assuré de le retrouver ce matin, bien résolu de ne plus le quitter jusqu'à ce qu'à force d'argent ou d'importunité, ou de quelque manière que ce pût être, j'eusse obtenu ce que j'étais venu lui demander. M'étant levé pour cela de très bonne heure, j'étais prêt à monter à cheval, quand je reçus par un express ce billet de Monsieur de Merveilleux, avec le congé du jeune homme en bonne forme. Voilà, monsieur, le congé que vous êtes venu solliciter. Je l'ai refusé à vos offres, je le donne à vos intentions charitables, et vous prie de croire que je ne m'ai point appris une bonne action. Jugez à la joie que vous donnera cet heureux succès de celle que j'ai sentie en l'apprenant. Pourquoi faut-il qu'elle ne soit pas aussi parfaite qu'elle devrait l'être ? Je ne puis me dispenser d'aller remercier et rembourser Monsieur de Merveilleux, et si cette visite retarde mon départ d'un jour, comme il est à craindre, n'ai-je pas le droit de dire qu'il s'est montré généreux à mes dépens ? N'importe, j'ai fait ce qui vous est agréable, je puis tout supporter à ce prix. Qu'on est heureux de pouvoir bien faire en servant ce qu'on aime, et réunir ainsi dans le même soin les charmes de l'amour et de la vertu. Je l'avoue, ô Julie, je partis le cœur plein d'impatience et de chagrin. Je vous reprochais d'être si sensible aux peines d'autrui et de compter pour rien les miennes, comme si j'étais le seul au monde qui n'eût rien mérité de vous. Je trouvais de la barbarie, après m'avoir leurré d'un si doux espoir, à me priver sans nécessité d'un bien dont vous m'aviez flatté vous-même. Tous ces murmures se sont évanouis. Je sens renaître à leur place, au fond de mon âme, un contentement inconnu. j'éprouve déjà le dédommagement que vous m'avez promis, vous que l'habitude de bien faire a tant instruite du goût qu'on y trouve. Quel étrange empire est le vôtre, de pouvoir rendre les privations aussi douces que les plaisirs, et donner à ce qu'on fait pour vous le même charme qu'on trouverait à se contenter soi-même. Ah, je l'ai dit 100 fois, tu es un ange du ciel, ma Julie. Sans doute, avec tant d'autorité sur mon âme, la tienne est plus divine qu'humaine. Comment n'être pas éternellement à toi, puisque ton règne est céleste? Et que servirait de cesser de t'aimer s'il faut toujours qu'on t'adore? Postscriptum. Suivant mon calcul, nous avons encore au moins 5 ou 6 jours jusqu'au retour de la maman. Serait-il impossible, durant cet intervalle, de faire un pèlerinage au chalet?
Lettre 44 de Julie à Saint-Preux.
Ne murmure pas tant, mon ami, de ce retour précipité. Il nous est plus avantageux qu'il ne semble, et quand nous aurions fait par adresse ce que nous avions fait par bienfaisance, nous n'aurions pas mieux réussi. Regarde ce qui serait arrivé si nous n'eussions suivi que nos fantaisies. Je serais allée à la campagne, précisément la veille du retour de ma mère à la ville. J'aurais eu un exprès avant d'avoir pu ménager notre entrevue. Il aurait fallu partir sur le champ, peut-être sans pouvoir t'avertir, te laisser dans des perplexités mortelles, et notre séparation se serait faite au moment qui la rendait le plus douloureuse. De plus, on aurait su que nous étions tous deux à la campagne. Malgré nos précautions, peut-être eût-on su que nous y étions ensemble. Du moins, on l'aurait soupçonné. C'en était assez. L'indiscrète avidité du présent nous ôtait toute ressource pour l'avenir, et le remords d'une bonne œuvre dédaignée nous eût tourmenté toute la vie. Compare à présent cet état à notre situation réelle. Premièrement, ton absence a produit un excellent effet. Mon Argus n'aura pas manqué de dire à ma mère qu'on t'avait peu vu chez ma cousine. Elle sait ton voyage et le sujet. C'est une raison de plus pour t'estimer. Et le moyen d'imaginer que des gens qui vivent en bonne intelligence prennent volontairement pour s'éloigner le seul moment de liberté qu'ils ont pour se voir. Quelle ruse avons-nous employée pour écarter une trop juste défiance? La seule, à mon avis, qui soit permise à d'honnêtes gens, c'est de l'être à un point qu'on ne puisse croire, en sorte qu'on prenne un effort de vertu pour un acte d'indifférence. Mon ami, qu'un amour caché par de tels moyens doit être doux au cœur qui le goûte. Ajoute à cela le plaisir de réunir des amants désolés et de rendre heureux 2 jeunes gens si dignes de l'être. Tu l'as vu, ma Fanchon, dis, n'est-elle pas charmante? Et ne mérite-t-elle pas bien tout ce que tu as fait pour elle? N'est-elle pas trop jolie et trop malheureuse pour rester fille impunément? Claude Anet, de son côté, dont le bon naturel a résisté par miracle à 3 ans de service, en est-il pu supporter encore autant sans devenir un vaurien comme tous les autres? Au lieu de cela, ils s'aiment et seront unis. Ils sont pauvres et seront aidés. Ils sont honnêtes gens et pourront continuer de l'être, car mon père a promis de prendre soin de leur établissement. Que de bien tu as procuré à eux et à nous par ta complaisance, sans parler du compte que je t'en dois tenir. Tel est, mon ami, l'effet assuré des sacrifices qu'on fait à la vertu. S'ils coûtent souvent à faire, il est toujours doux de les avoir faits, et l'on n'a jamais vu personne se repentir d'une bonne action. Je me doute bien qu'à l'exemple de l'inséparable, tu m'appelleras aussi la prêcheuse, et il est vrai que je ne fais pas mieux ce que je dis que les gens du métier. Si mes sermons ne valent pas les leurs, au moins je vois avec plaisir qu'ils ne sont pas comme eux jetés au vent. Je ne m'en défends point, mon aimable ami. Je voudrais ajouter autant de vertu aux tiennes qu'un fol amour m'en a fait perdre, et ne pouvant plus m'estimer moi-même, j'aime à m'estimer encore en toi. De ta part, il ne s'agit que d'aimer parfaitement, et tout viendra comme de lui-même. Avec quel plaisir tu dois voir augmenter sans cesse les dettes que l'amour s'oblige à payer. Ma cousine a su les entretiens que tu as eus avec son père au sujet de Monsieur d'Orbe. Elle y est aussi sensible que si nous pouvions, en office de l'amitié, n'être pas toujours en reste avec elle. Mon Dieu, mon ami, que je suis une heureuse fille, que je suis aimée, que je trouve charmant de l'être. Père, mère, ami, amant, j'ai beau chérir tout ce qui m'environne, je me trouve toujours ou prévenue ou surpassée. Il semble que tous les plus doux sentiments du monde viennent sans cesse chercher mon âme, et j'ai le regret de n'en avoir qu'une pour jouir de tout mon bonheur. J'oubliais de t'annoncer une visite pour demain matin. C'est Milord Bomstone, qui vient de Genève, où il a passé 7 ou 8 mois. Il dit avoir vu Assion à son retour d'Italie. Il te trouva fort triste et parle au surplus de toi comme j'en pense. Il fit hier ton éloge si bien et si à propos devant mon père qu'il m'a tout à fait disposé à faire le sien. En effet, j'ai trouvé du sens, du sel, du feu dans sa conversation. Sa voix s'élève et son œil s'anime au récit des grandes actions, comme il arrive aux hommes capables d'en faire. Il parle aussi avec intérêt des choses de goût, entre autres de la musique italienne qu'il porte jusqu'au sublime. Je croyais entendre encore mon pauvre frère. Au surplus, il met plus d'énergie que de grâce dans ses discours, et je lui trouve même l'esprit un peu rêche. Adieu, mon ami.
Lettre 45 de Saint-Preux à Julie.
Je n'en étais encore qu'à la seconde lecture de ta lettre quand Milord Edward Bomstone est entré. Ayant d'autres choses à te dire, comment aurais-je pensé, ma Julie, à te parler de lui? Quand on se suffit l'un à l'autre, s'avise-t-on de songer à un tiers? Je vais te rendre compte de ce que j'en sais, maintenant que tu parais le désirer. Ayant passé le Simplon, il était venu jusqu'à Sion au-devant d'une chaise qu'on devait lui amener de Genève à Brigue, et le désœuvrement rendant les hommes assez liants, il me rechercha. Nous fîmes une connaissance aussi intime qu'un Anglais naturellement peu prévenant peut la faire avec un homme fort préoccupé qui cherche la solitude. Cependant, nous sentîmes que nous nous convenions. Il y a un certain unisson d'âme qui s'aperçoit au premier instant, et nous fûmes familiers au bout de 8 jours, mais pour toute la vie, comme 2 Français l'auraient été au bout de 8 heures pour tout le temps qu'ils ne se seraient pas quittés. Il m'entretint de ses voyages, et, le sachant anglais, je crus qu'il m'allait parler d'édifices et de peintures. Bientôt je vis avec plaisir que les tableaux et les monuments ne lui avaient point fait négliger l'étude des mœurs et des hommes. Il me parla, cependant, des beaux-arts avec beaucoup de discernement, mais modérément et sans prétention. J'estimais qu'il en jugeait avec plus de sentiment que de science, et par les effets plus que par les règles, ce qui me confirma qu'il avait l'âme sensible. Pour la musique italienne, il m'en parut enthousiaste, comme à toi. Il m'en fit même entendre, car il mène un virtuose avec lui. Son valet de chambre joue fort bien du violon, et lui-même passablement du violoncelle. Il me choisit plusieurs morceaux très pathétiques, à ce qu'il prétendait, mais soit qu'un accent si nouveau pour moi demandât une oreille plus exercée, soit que le charme de la musique, si doux dans la mélancolie, s'efface dans une profonde tristesse, ces morceaux me firent peu de plaisir, et j'en trouvais le chant agréable à la vérité, mais bizarre et sans expression. Il fut aussi question de moi, et Milord s'informa avec intérêt de ma situation. Je lui en dis tout ce qu'il devait en savoir. Il me proposa un voyage en Angleterre avec des projets de fortune impossibles, dans un pays où Julie n'était pas. Il me dit qu'il allait passer l'hiver à Genève, l'été suivant à Lausanne, et qu'il viendrait à Vevey avant de retourner en Italie. Il m'a tenu parole, et nous nous sommes revus avec un nouveau plaisir. Quant à son caractère, je le crois vif et emporté, mais vertueux et ferme. Il se pique de philosophie et de ces principes dont nous avons autrefois parlé, mais au fond, je le crois par tempérament ce qu'il pense être par méthode, et le vernis stoïque qu'il met à ses actions ne consiste qu'à parer de beaux raisonnements le parti que son cœur lui a fait prendre. J'ai cependant appris, avec un peu de peine, qu'il avait eu quelques affaires en Italie et qu'il s'y était battu plusieurs fois. Je ne sais ce que tu trouves de rêche dans ses manières. Véritablement, elles ne sont pas prévenantes, mais je n'y sens rien de repoussant. Quoique son abord ne soit pas aussi ouvert que son âme, et qu'il dédaigne les petites bienséances, il ne laisse pas, ce me semble, d'être d'un commerce agréable. S'il n'a pas cette politesse réservée et circonspecte qui se règle uniquement sur l'extérieur, et que nos jeunes officiers nous apportent de France, il a celle de l'humanité, qui se pique moins de distinguer au premier coup d'œil les états et les rangs, et respecte en général tous les hommes. Te l'avouerai-je naïvement, la privation des grâces est un défaut que les femmes ne pardonnent point, même au mérite, et j'ai peur que Julie n'ait été femme une fois en sa vie. Puisque je suis en train de sincérité, je te dirai encore, ma jolie prêcheuse, qu'il est inutile de vouloir donner le change à mes droits, et qu'un amour affamé ne se nourrit point de sermons. Songe, songe au dédommagement promis et dû, car toute la morale que tu m'as débitée est fort bonne, mais, quoi que tu puisses en dire, le chalet valait encore mieux.
Lettre 46 de Julie à Saint-Preux.
Eh bien donc, mon ami, toujours le chalet. L'histoire de ce chalet te pèse furieusement sur le cœur, et je vois bien qu'à la mort ou à la vie, il faut te faire raison du chalet. Mais des lieux où tu ne fus jamais, te sont-ils si chers qu'on ne puisse t'en dédommager ailleurs? Et l'amour qui fit le palais d'Armide au fond d'un désert, ne saurait-il nous faire un chalet à la ville? Écoute, on va marier ma Fanchon. Mon père, qui ne hait pas les fêtes et l'appareil, veut lui faire une noce où nous serons tous. Cette noce ne manquera pas d'être tumultueuse. Quelquefois le mystère a su tendre son voile au sein de la turbulente joie et du fracas des festins. Tu m'entends, mon ami, ne serait-il pas doux de retrouver dans l'effet de nos soins les plaisirs qu'ils nous ont coûtés? Tu t'animes, ce me semble, d'un zèle assez superflu sur l'apologie de Milord Édouard, dont je suis fort éloignée de mal penser. D'ailleurs, comment jugerais-je un homme que je n'ai vu qu'un après-midi? Et comment pourrais-tu juger toi-même sur une connaissance de quelques jours? Je n'en parle que par conjecture, et tu ne peux guère être plus avancé, car les propositions qu'il t'a faites sont de ces offres vagues dont un air de puissance et la facilité de les éluder rendent souvent les étrangers prodigues. Mais je reconnais tes vivacités ordinaires, et combien tu as de penchant à te prévenir pour ou contre les gens presque à la première vue. Cependant, nous examinerons à loisir les arrangements qu'il t'a proposés. Si l'amour favorise le projet qui m'occupe, il s'en présentera peut-être de meilleur pour nous. Oh, mon bon ami, la patience est amère, mais son fruit est doux. Pour revenir à ton anglais, je t'ai dit qu'il me paraissait avoir l'âme grande et forte, et plus de lumière que d'agrément dans l'esprit. Tu dis à peu près la même chose, et puis, avec cet air de supériorité masculine qui n'abandonne point nos humbles adorateurs, tu me reproches d'avoir été de mon sexe une fois en ma vie, comme si jamais une femme devait cesser d'en être. Te souvient-il qu'en lisant ta République de Platon, nous avons autrefois disputé sur ce point de la différence morale des sexes? Je persiste dans la vie dont j'étais alors, et ne saurais imaginer un modèle commun de perfection pour deux êtres si différents. L'attaque et la défense, l'audace des hommes, la pudeur des femmes, ne sont point des conventions, comme le pensent tes philosophes, mais des institutions naturelles dont il est facile de rendre raison, et dont se déduisent aisément toutes les autres distinctions morales. D'ailleurs, la destination de la nature n'étant pas la même, les inclinations, les manières de voir et de sentir doivent être dirigées de chaque côté selon ses vues. Il ne faut point les mêmes goûts ni la même constitution pour labourer la terre et pour allaiter les enfants. Une taille plus haute, une voix plus forte et des traits plus marqués semblent n'avoir aucun rapport nécessaire au sexe, mais les modifications extérieures annoncent l'intention de l'ouvrier dans les modifications de l'esprit. Une femme parfaite et un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler d'âme que de visage. Ces vaines imitations de sexe sont le comble de la déraison. Elles font rire le sage et fuir les amours. Enfin, je trouve qu'à moins d'avoir 5 pieds et demi de haut, une voix de basse et de la barbe au menton, l'on ne doit point se mêler d'être homme. Vois combien les amants sont maladroits en injures. Tu me reproches une faute que je n'ai pas commise, ou que tu commets aussi bien que moi, et l'attribues à un défaut dont je m'honore. Veux-tu que, te rendant sincérité pour sincérité, je te dise naïvement ce que je pense de la tienne? Je n'y trouve qu'un raffinement de flatterie pour te justifier à toi-même, par cette franchise apparente, les éloges enthousiastes dont tu m'accables à tout propos. Mes prétendues perfections t'aveuglent au point que, pour démentir les reproches que tu te fais en secret de ta prévention, tu n'as pas l'esprit d'en trouver un solide à me faire. Crois-moi, ne te charge point de me dire mes vérités. Tu t'en acquitterais trop mal. Les yeux de l'amour, tout perçants qu'ils sont, savent-ils voir les défauts? C'est à l'intègre amitié que ces soins appartiennent, et là-dessus, ta disciple Claire est 100 fois plus savante que toi. Oui, mon ami, loue-moi, admire-moi, Trouve-moi belle, charmante, parfaite. Tes éloges me plaisent sans me séduire, parce que je vois qu'ils sont le langage de l'erreur et non de la fausseté, et que tu te trompes toi-même, mais que tu ne veux pas me tromper. Oh, que les illusions de l'amour sont aimables! Ces flatteries sont en un sens des vérités. Le jugement se tait, mais le cœur parle. L'amant qui loue en nous des perfections que nous n'avons pas, les voit en effet telles qu'il les représente. Il ne ment point en disant des mensonges. Il flatte, sans s'avilir, et l'on peut au moins l'estimer sans le croire. J'ai entendu, non sans quelques battements de cœur, proposer d'avoir demain deux philosophes à souper. L'un est Milord Édouard, l'autre est un sage, dont la gravité s'est quelquefois un peu dérangée au pied d'une jeune écolière. Ne le connaîtriez-vous point ? Exhortez-le, je vous prie, à tâcher de garder demain le décorum philosophique un peu mieux qu'à son ordinaire. J'aurai soin d'avertir aussi la petite personne de baisser les yeux et d'être au sien le moins joli qu'il se pourra.
Lettre 47 de Saint-Preux à Julie.
Ah, mauvaise, est-ce là la circonspection que tu m'avais promise? Est-ce ainsi que tu ménages mon cœur et voiles tes attraits? Que de contraventions à tes engagements? Premièrement, ta parure, car tu n'en avais point, et tu sais bien que jamais tu n'es si dangereuse. Secondement, ton maintien si doux, si modeste, si propre à laisser remarquer à loisir toutes tes grâces. Ton parler plus rare, plus réfléchi, plus spirituel encore qu'à l'ordinaire, qui nous rendait tous plus attentifs et faisait voler l'oreille et le cœur au devant de chaque mot. Cet air que tu chantas à demi-voix, pour donner encore plus de douceur à ton chant, et qui, bien que français, plut à Milord Édouard même. Ton regard timide et tes yeux baissés, dont les éclairs inattendus me jetaient dans un trouble inévitable. Enfin, ce je ne sais quoi d'inexprimable, d'enchanteur, que tu semblais avoir répandu sur toute ta personne pour faire tourner la tête à tout le monde, sans paraître même y songer. Je ne sais, pour moi, comment tu t'y prends. Mais si telle est ta manière d'être jolie le moins qu'il est possible, je t'avertis que c'est l'être beaucoup plus qu'il ne faut pour avoir des sages autour de toi. Je crains fort que le pauvre philosophe anglais n'ait un peu ressenti la même influence. Après avoir reconduit ta cousine, comme nous étions tous encore fort éveillés, il nous proposa d'aller chez lui faire de la musique et boire du punch. Tant qu'on rassemblait ces gens, il ne cessa de nous parler de toi avec un feu qui me déplut. Et je n'entendis pas ton éloge dans sa bouche avec autant de plaisir que tu avais entendu le mien. En général, j'avoue que je n'aime point que personne, excepté ta cousine, me parle de toi. Il me semble que chaque mot m'ôte une partie de mon secret ou de mes plaisirs. Et quoi que l'on puisse dire, on y met un intérêt si suspect, où l'on est si loin de ce que je sens, que je n'aime écouter là-dessus que moi-même. Ce n'est pas que j'ai, comme toi, du penchant à la jalousie. Je connais mieux ton âme. J'ai des garants qui ne me permettent pas même d'imaginer ton changement possible. Après tes assurances, je ne te dis plus rien des autres prétendants, mais celui-ci, Julie, des conditions sortables, des préjugés de ton père, tu sais bien qu'il s'agit de ma vie, daigne donc me dire un mot là-dessus, un mot de Julie, et je suis tranquille à jamais. J'ai passé la nuit à entendre ou exécuter de la musique italienne, car il s'est trouvé des duos et il a fallu hasarder d'y faire ma partie. Je n'ose te parler encore de l'effet qu'elle a produit sur moi. J'ai peur que l'impression du souper d'hier au soir ne se soit prolongée sur ce que j'entendais, et que je n'ai pris l'effet de tes séductions pour le charme de la musique. Pourquoi la même cause qui me la rendait ennuyeuse à Sion ne pourrait-elle pas ici me la rendre agréable dans une situation contraire? N'es-tu pas la première source de toutes les affections de mon âme? Et suis-je à l'épreuve des prestiges de ta magie? Si la musique eût réellement produit cet enchantement, il eût agi sur tous ceux qui l'entendaient, mais tandis que ses chants me tenaient en extase, M. d'Orbe dormait tranquillement dans un fauteuil, et au milieu de mes transports, il s'est contenté pour tout éloge de demander si ta cousine savait l'italien. Tout ceci sera mieux éclairci demain, car nous avons pour ce soir un nouveau rendez-vous de musique. Milord veut la rendre complète, et il a mandé de Lausanne un second violon qu'il dit être assez entendu. Je porterai de mon côté des scènes, des cantates françaises, et nous verrons. En arrivant chez moi, j'étais d'un accablement que m'a donné le peu d'habitude de veiller, et qui se perd en t'écrivant. Il faut pourtant tâcher de dormir quelques heures. Viens avec moi, ma douce amie. Ne me quitte point durant mon sommeil. Mais, soit que ton image le trouble ou le favorise, soit qu'il m'offre ou non les noces de la Fanchon, un instant délicieux qui ne peut m'échapper et qu'il me prépare, c'est le sentiment de mon bonheur au réveil.
Lettre 48 de Saint-Preux à Julie.
Ah, ma Julie, qu'ai-je entendu? Quels sons touchants, quelle musique, quelle source délicieuse de sentiments et de plaisirs! Ne perds pas un moment, rassemble avec soin tes opéras, tes cantates, ta musique française, fais un grand feu bien ardent, jette-y tout ce fatras et l'attise avec soin, afin que tant de glace puisse y brûler et donner de la chaleur au moins une fois. Fais ce sacrifice propitiatoire au dieu du goût pour expier ton crime et le mien d'avoir profané ta voix à cette lourde psalmodie et d'avoir pris si longtemps pour le langage du cœur un bruit qui ne fait qu'étourdir l'oreille. Oh, que ton digne frère avait raison! Dans quelle étrange erreur j'ai vécu jusqu'ici sur les productions de cet art charmant! Je sentais leur peu d'effet et l'attribuais à sa faiblesse. Je disais, la musique n'est qu'un vain son qui peut flatter l'oreille et n'agit qu'indirectement et légèrement sur l'âme. L'impression des accords est purement mécanique et physique. Qu'a-t-elle à faire au sentiment? Et pourquoi devrais-je espérer d'être plus vivement touché d'une belle harmonie que d'un bel accord de couleur? Je n'apercevais pas, dans les accents de la mélodie appliqués à ceux de la langue, le lien puissant et secret des passions avec les sons. Je ne voyais pas que l'imitation des tons divers dont les sentiments animent la voix parlante donne à son tour à la voix chantante le pouvoir d'agiter les cœurs, et que l'énergique tableau des mouvements de l'âme de celui qui se fait entendre est ce qui fait le vrai charme de ceux qui l'écoutent. C'est ce que me fit remarquer le chanteur de Milord, qui, pour un musicien, ne laisse pas de parler assez bien de son art. « L'harmonie, me disait-il, n'est qu'un accessoire éloigné dans la musique imitative. Il y a dans l'harmonie proprement dite aucun principe d'imitation. Elle assure, il est vrai, les intonations, elle porte témoignage de leur justesse, et rendant les modulations plus sensibles, elle ajoute de l'énergie à l'expression et de la grâce au chant. Mais c'est de la seule mélodie que sort cette puissance invincible des accents passionnés. C'est d'elle que dérive tout le pouvoir de la musique sur l'âme. Formez les plus savantes successions d'accords sans mélange de mélodies, vous serez ennuyé au bout d'un quart d'heure. De beaux chants sans aucune harmonie sont longtemps à l'épreuve de l'ennui. Que l'accent du sentiment anime les chants les plus simples, ils seront intéressants. Au contraire, une mélodie qui ne parle point chante toujours mal. Et la seule harmonie n'a jamais rien su dire au cœur. C'est en ceci, continua-t-il, que consiste l'erreur des Français sur les forces de la musique. N'ayant et ne pouvant avoir une mélodie à eux, dans une langue qui n'a point d'accent, et sur une poésie maniérée qui ne connut jamais la nature, ils n'imaginent des faits que ceux de l'harmonie et des éclats de voix, qui ne rendent pas les sons les plus mélodieux, mais plus bruyants. Et ils sont si malheureux dans leurs prétentions que cette harmonie même qu'ils cherchent leur échappe. À force de la vouloir charger, ils n'y mettent plus de choix. Ils ne connaissent plus les choses des faits, ils ne font plus que du remplissage, ils se gâtent l'oreille et ne sont plus sensibles qu'au bruit, en sorte que la plus belle voix pour eux n'est que celle qui chante le plus fort. Aussi, faute d'un genre propre, n'ont-ils jamais fait que suivre pesamment et de loin nos modèles. Et depuis leur célèbre Lully, ou plutôt le nôtre, qui ne fit qu'imiter les opéras dont l'Italie était déjà pleine de son temps, on les a toujours vus à la piste de 30 ou 40 ans copier, gâter nos vieux auteurs et faire à peu près de notre musique comme les autres peuples font de leur mode. Quand ils se vantent de leurs chansons, c'est leur propre condamnation qu'ils prononcent. S'ils savaient chanter des sentiments, ils ne chanteraient pas de l'esprit. Mais parce que leur musique n'exprime rien, elle est plus propre aux chansons qu'aux opéras. Et parce que la nôtre est toute passionnée, elle est plus propre aux opéras qu'aux chansons. Ensuite, m'ayant récité sans chant quelques scènes italiennes, il me fit sentir les apports de la musique à la parole dans le récitatif, de la musique au sentiment dans les airs, et partout l'énergie que la mesure exacte et le choix des accords ajoutent à l'expression. Enfin, après avoir joint à la connaissance que j'ai de la langue la meilleure idée qu'il me fut possible de l'accent oratoire et pathétique, c'est-à-dire de l'art de parler à l'oreille et au cœur dans une langue sans articuler des mots, je me mis à écouter cette musique enchanteresse, et je sentis bientôt, aux émotions qu'elle me causait, que cet art avait un pouvoir supérieur à celui que j'avais imaginé. Je ne sais quelle sensation voluptueuse me gagnait insensiblement. Ce n'était plus une vaine suite de sons comme dans nos récits. À chaque phrase, quelque image entrait dans mon cerveau ou quelque sentiment dans mon cœur. Le plaisir ne s'arrêtait point à l'oreille, il pénétrait jusqu'à l'âme. L'exécution coulait sans effort avec une facilité charmante. Tous les concertants semblaient animés du même esprit. Le chanteur, maître de sa voix, en tirait sans gêne tout ce que le chant et les paroles demandaient de lui. Et je trouvais surtout un grand soulagement à ne sentir ni ses lourdes cadences, ni ses pénibles efforts de voix, ni cette contrainte que donne chez nous aux musiciens le perpétuel combat du chant et de la mesure, qui, ne pouvant jamais s'accorder, ne lasse guère moins l'auditeur que l'exécutant. Mais quand, après une suite d'airs agréables, on vint à ces grands morceaux d'expression qui savent exciter et peindre le désordre des passions violentes, je perdais à chaque instant l'idée de musique, de chant, d'imitation. Je croyais entendre la voix de la douleur, de l'emportement, du désespoir. Je croyais voir des mères éplorées, des amants trahis, des tyrans furieux, et dans les agitations que j'étais forcé d'éprouver, j'avais peine à rester en place. Je connus alors pourquoi cette même musique qui m'avait autrefois ennuyé m'échauffait maintenant jusqu'au transport. C'est que j'avais commencé de la concevoir, et que sitôt qu'elle pouvait agir, elle agissait avec toute sa force. Non, Julie, on ne supporte point à demi de pareilles impressions. Elles sont excessives ou nulles, jamais faibles ou médiocres. Il faut rester insensible ou se laisser émouvoir outre mesure. Ou c'est le vain bruit d'une langue qu'on n'entend point, ou c'est une impétuosité de sentiments qui vous entraîne et à laquelle il est impossible à l'âme de résister. Je n'avais qu'un regret, mais il ne me quittait point. C'était qu'un autre que toi forma des sons dont j'étais si touché, et de voir sortir de la bouche d'un vil castrato les plus tendres expressions de l'amour. Oh, ma Julie, n'est-ce pas à nous de revendiquer tout ce qui appartient au sentiment ? Qui sentira, qui dira mieux que nous ce que doit dire et sentir une âme attendrie ? Qui saura prononcer d'un ton plus touchant le cor mio, l'idolo amato ? Ah, que le cœur prêtera d'énergie à l'art, si jamais nous chantons ensemble un de ces duos charmants qui font couler des larmes si délicieuses. Je te conjure, premièrement, d'entendre un essai de cette musique, soit chez toi, soit chez l'inséparable. Milord y conduira quand tu voudras tout son monde, et je suis sûr qu'avec un organe aussi sensible que le tien, et plus de connaissances que je n'en avais de la déclamation italienne, une seule séance suffira pour t'amener au point où je suis et te faire partager mon enthousiasme. Je te propose, et te prie encore, de profiter du séjour du virtuose pour rendre le son de lui, comme j'ai commencé de faire dès ce matin. Sa manière d'enseigner est simple, nette, et consiste en pratique plus qu'en discours. Il ne dit pas ce qu'il faut faire, il le fait. Et en ceci, comme en bien d'autres choses, l'exemple vaut mieux que la règle. Je vois déjà qu'il n'est question que de s'asservir à la mesure, de la bien sentir, de phraser et ponctuer avec soin, de soutenir également des sons et non de les renfler. Enfin, doter de la voix les éclats et toute la prétintaille française pour la rendre juste, expressive et flexible. La tienne, naturellement si légère et si douce, prendra facilement ce nouveau pli. Tu trouveras bientôt dans ta sensibilité l'énergie et la vivacité de l'accent qui anime la musique italienne. El cantar che nell'anima si sente. Laisse donc pour jamais cet ennuyeux et lamentable chant français, qui ressemble au cri de la colique mieux qu'au transport des passions. Apprends à former ces sons divins que le sentiment inspire, seul digne de ta voix, seul digne de ton cœur, et qui porte toujours avec eux le charme et le feu des caractères sensibles.
Lettre 49 de Julie à Saint-Preux.
Tu sais bien, mon ami, que je ne puis t'écrire qu'à la dérobée et toujours en danger d'être surprise. Ainsi, dans l'impossibilité de faire de longues lettres, je me borne à répondre à ce qu'il y a de plus essentiel dans les tiennes, ou à suppléer à ce que je n'ai pu te dire dans des conversations non moins furtives de bouche que par écrit. C'est ce que je ferai, surtout aujourd'hui, que deux mots au sujet de Milord Edward me font oublier le reste de ta lettre. Mon ami, tu crains de me perdre et me parles de chansons, belle matière à tracasserie entre amants qui s'entendraient moins. Vraiment, tu n'es pas jaloux, on le voit bien, mais pour le coup, je ne serai pas jalouse moi-même, car j'ai pénétré dans ton âme et ne sens que ta confiance où d'autres croiraient sentir ta froideur. Oh, la douce et charmante sécurité que celle qui vient du sentiment d'une union parfaite. C'est par elle, je le sais, que tu tires de ton propre cœur le bon témoignage du mien. C'est par elle aussi que le mien te justifie, et je te croirais bien moins amoureux si je te voyais plus alarmé. Je ne sais ni ne veux savoir si Milord Edward a d'autres attentions pour moi que celles qu'ont tous les hommes pour les personnes de mon âge. Ce n'est point de ses sentiments qu'il s'agit, mais de ceux de mon père et des miens. Ils sont aussi d'accord sur son compte que sur celui des prétendus prétendants dont tu dis que tu ne dis rien. Si son exclusion et la leur suffisent à ton repos, sois tranquille. Quelque honneur que nous fit la recherche d'un homme de ce rang, jamais du consentement du père ni de la fille, Julie d'Étanges ne sera Lady Bomstone. Voilà sur quoi tu peux compter. Ne va pas croire qu'il ait été pour cela question de Milord Edward. Je suis sûre que de nous quatre, tu es le seul qui puisse même lui supposer du goût pour moi. Quoi qu'il en soit, je sais à cet égard la volonté de mon père, sans qu'il en ait parlé ni à moi ni à personne, et je n'en serais pas mieux instruite quand il me l'aurait positivement déclaré. En voilà assez pour qu'elle m'ait crainte. C'est-à-dire autant que tu en dois savoir. Le reste serait pour toi de pure curiosité, et tu sais que j'ai résolu de ne pas la satisfaire. Tu as beau me reprocher cette réserve et la prétendre hors de propos dans nos intérêts communs. Si je l'avais toujours eue, elle me serait moins importante aujourd'hui. Sans le compte indiscret que je te rendis d'un discours de mon père, tu n'aurais point été te désoler à Maillerie. Tu ne m'eusses point écrit la lettre qui m'a perdue. Je vivrais innocente et pourrais encore aspirer au bonheur. Juge, par ce que me coûte une seule indiscrétion, de la crainte que je dois avoir d'en commettre d'autres. Tu as trop d'emportement pour avoir de la prudence. Tu pourrais plutôt vaincre tes passions que les déguiser. La moindre alarme te mettrait en fureur. À la moindre lueur favorable, tu ne douterais plus de rien. On lirait tous nos secrets dans ton âme, et tu détruirais à force de zèle tout le succès de mes soins. Laisse-moi donc les soucis de l'amour, et n'en garde que les plaisirs. Se partageait-il si pénible, et ne sens-tu pas que tu ne peux rien à notre bonheur que de n'y point mettre obstacle? Hélas, que me serviront désormais ces précautions tardives? Est-il temps d'affermir ses pas au fond du précipice et de prévenir les maux dont on se sent accablé? Ah, misérable fille, c'est bien à toi de parler de bonheur. En peut-il jamais être où règne la honte et le remords? Dieu, quel état cruel de ne pouvoir ni supporter son crime, ni s'en repentir, d'être assiégé par mille frayeurs, abusé par mille espérances vaines, et de ne jouir pas même de l'horrible tranquillité du désespoir. Je suis désormais à la seule merci du sort. Ce n'est plus ni de force ni de vertu qu'il est question, mais de fortune et de prudence, et il ne s'agit pas d'éteindre un amour qui doit durer autant que ma vie, mais de le rendre innocent ou de mourir coupable. Considère cette situation, mon ami, et vois si tu peux te fier à mon zèle.
Lettre 50 de Julie à Saint-Preux.
Je n'ai point voulu vous expliquer hier, en vous quittant, la cause de la tristesse que vous m'avez reprochée, parce que vous n'étiez pas en état de m'entendre. Malgré mon aversion pour les éclaircissements, je vous dois celui-ci, puisque je l'ai promis, et je m'en acquitte. Je ne sais si vous vous souvenez des étranges discours que vous me tintes hier au soir, et des manières dont vous les accompagnâtes. Quant à moi, je ne les oublierai jamais assez tôt pour votre honneur et pour mon repos. Et malheureusement, j'en suis trop indignée pour pouvoir les oublier aisément. De pareilles expressions avaient quelquefois frappé mon oreille en passant auprès du port, mais je ne croyais pas qu'elles pussent jamais sortir de la bouche d'un honnête homme. Je suis très sûre au moins qu'elles n'entrèrent jamais dans le dictionnaire des amants, et j'étais bien éloignée de penser qu'elles pussent être d'usage entre vous et moi. Et Dieu, quel amour est le vôtre, s'il assaisonne ainsi ses plaisirs? Vous sortiez, il est vrai, d'un long repas, et je vois ce qu'il faut pardonner en ce pays aux excès qu'on y peut faire, C'est aussi pour cela que je vous en parle. Soyez certain qu'un tête-à-tête où vous m'auriez traité ainsi de sang-froid eût été le dernier de notre vie. Mais ce qui m'alarme sur votre compte, c'est que souvent, la conduite d'un homme échauffé de vin n'est que l'effet de ce qui se passe au fond de son cœur dans les autres temps. Croirais-je que dans un état où l'on ne déguise rien, vous vous montrâtes tel que vous êtes? Que deviendrais-je si vous pensiez à jeun comme vous parliez hier au soir? Plutôt que de supporter un pareil mépris, j'aimerais mieux éteindre un feu si grossier et perdre un amant qui, sachant si mal honorer sa maîtresse, mériterait si peu d'en être estimé. Dites-moi, vous qui chérissez les sentiments honnêtes, seriez-vous tombé dans cette erreur cruelle que l'amour heureux n'a plus de ménagement à garder avec la pudeur et qu'on ne doit plus de respect à celle dont on n'a plus de rigueur à craindre? Ah, si vous aviez toujours pensé ainsi, vous auriez été moins à redouter et je ne serais pas si malheureuse. Ne vous y trompez pas, mon ami. Rien n'est si dangereux pour les vrais amants que les préjugés du monde. Tant de gens parlent d'amour et si peu savent aimer, que la plupart prennent pour ces pures et douces lois les viles maximes d'un commerce abject qui, bientôt assouvi de lui-même, a recours aux monstres de l'imagination et se déprave pour se soutenir. Je ne sais si je m'abuse, mais il me semble que le véritable amour est le plus chaste de tous les liens. C'est lui, c'est son feu divin qui sait épurer nos penchants naturels en les concentrant dans un seul objet. C'est lui qui nous dérobe aux tentations et qui fait qu'excepté cet objet unique, un sexe n'est plus rien pour l'autre. Pour une femme ordinaire, tout homme est toujours un homme, mais pour celle dont le cœur aime, il n'y a point d'homme que son amant. Que dis-je, un amant n'est-il qu'un homme? Ah, qu'il est un être bien plus sublime. Il n'y a point d'homme pour celle qui aime. Son amant est plus, tous les autres sont moins. Elle et lui sont les seuls de leur espèce. Ils ne désirent pas, ils aiment. Le cœur ne suit point les sens, il les guide, il couvre leurs égarements d'un voile délicieux. Non, il n'y a rien d'obscène que la débauche et son grossier langage. Le véritable amour, toujours modeste, n'arrache point ses faveurs avec audace. Il les dérobe avec timidité. Le mystère, le silence, la honte craintive aiguisent et cachent ses doux transports. Sa flamme honore et purifie toutes ses caresses. La décence et l'honnêteté l'accompagnent au sein de la volupté même, et lui seul sait tout accorder au désir sans rien ôter à la pudeur. Ah, dites, vous qui connûtes les vrais plaisirs, comment une cynique effronterie pourrait-elle s'allier avec eux? Comment ne bannirait-elle pas leur délire et tout leur charme? Comment ne souillerait-elle pas cette image de perfection sous laquelle on se plaît à contempler l'objet aimé? Croyez-moi, mon ami, la débauche et l'amour ne sauraient loger ensemble et ne peuvent pas même se compenser. Le cœur fait le vrai bonheur quand on s'aime et rien n'y peut suppléer sitôt qu'on ne s'aime plus. Mais quand vous seriez assez malheureux pour vous plaire à ce déshonnête langage, comment avez-vous pu vous résoudre à l'employer si mal à propos et à prendre avec celle qui vous est chère un ton et des manières qu'un homme d'honneur doit même ignorer? Depuis quand est-il doux d'affliger ce qu'on aime, et quelle est cette volupté barbare qui se plaît à jouir du tourment d'autrui? Je n'ai pas oublié que j'ai perdu le droit d'être respectée, mais si je l'oubliais jamais, est-ce à vous de me le rappeler? Est-ce à l'auteur de ma faute d'en aggraver la punition? Ce serait à lui plutôt à m'en consoler. Tout le monde a droit de me mépriser, hors vous. Vous me devez le prix de l'humiliation où vous m'avez réduite, et tant de pleurs versés sur ma faiblesse méritaient que vous me la fissiez moins cruellement sentir. Je ne suis ni prude ni précieuse, hélas, que j'en suis loin, moi qui n'ai pas même su être sage. Vous le savez trop, ingrat, si ce tendre cœur sait rien refuser à l'amour. Mais au moins, ce qu'il lui cède, il ne veut le céder qu'à lui, et vous m'avez trop bien appris son langage pour lui en pouvoir substituer un si différent. Des injures, des coups, m'outragerait moins que de semblables caresses. Ou renoncez à Julie, ou sachez être estimé d'elle. Je vous l'ai déjà dit, je ne connais point d'amour sans pudeur, et s'il m'en coûtait de perdre le vôtre, il m'en coûterait encore plus de le conserver à ce prix. Il me reste beaucoup de choses à dire sur le même sujet, mais il faut finir cette lettre, et je les renvoie à un autre temps. En attendant, remarquez un effet de vos fausses maximes sur l'usage immodéré du vin. Votre cœur n'est point coupable, j'en suis très sûre. Cependant, vous avez navré le mien, et sans savoir ce que vous faisiez, vous désoliez comme à plaisir ce cœur trop facile à s'alarmer, et pour qui rien n'est indifférent de ce qui lui vient de vous.